bien. Avec votre permission, on va débuter ce petit temps fort traditionnel maintenant à l'espace Mendès France. Merci d'être là. Ça va faire venir, c'est comme pour l'apéritif, ça va faire venir les celles et ceux qui ont été invités. Tout d'abord, je voulais vous présenter les excuses de Mario Cotron, qui est le nouveau président de l'espace Mendès France depuis mercredi soir. Et puis, la seule différence entre Mario Cotron et son prédécesseur, c'est que son prédécesseur était à la retraite et Mario, il a un métier encore. Donc, et il est parti là à l'UFM pour animer une discussion sur la réforme de l'enseignement supérieur. Donc, ça va être, à mon avis, un peu compliqué. Donc, comme il disait tout à l'heure, soit à 2h30, on a fini et c'est réglé, soit à 8h ce soir, on sera encore en train de s'accrocher avec les services du recteur et de l'État. Voilà, donc bienvenue à tous. Un petit mot pour vous rappeler que vous êtes là à un moment de la vie de l'espace Mendès France qui est un petit peu particulier, puisque l'espace Mendès France fête ses 20 ans. Donc la semaine est une série ininterrompue d'événements, de rencontres, de temps forts particuliers, avec un très gros succès. Tant auprès de notre public traditionnel de l'éducation nationale que du grand public. Et on a particulièrement été aidé par les médias depuis une quinzaine de jours, indépendamment de partenariats quelconques. Il y a un très gros suivi et on attend ce week-end ce que j'appelle la partie populaire du public de l'espace Mendès France, extrêmement familiale. On a préparé une trentaine d'animations extrêmement ludiques. Et les entrées aux expositions et au planétarium à titre gratuit. Voilà, donc une vraie ouverture pour la population poitevine. D'ailleurs, en ce moment, il y a une conférence du collaborateur scientifique d'Edgar Morin, Alfredo Penavega, qui parle de complexité. Et dans la salle de la cafétéria, on a des enseignants de tout le Poitou-Charentes et tous viennent me dire c'est pas normal qu'on n'ait pas ça. Et pourtant, ils parlent de villes relativement importantes, hein, qu'on n'ait pas plus de sciences à Angoulême, à Rochefort, à Niort, etc. Je leur ai dit que c'était un choix politique de cette ville d'avoir réalisé cet établissement et aussi un véritable projet collectif qui a permis d'arriver là où nous sommes, puisque l'espace Mendès France est une maison qui est visitée bien au-delà de nos frontières. Je vous rappelle que nous avons un projet qui est pratiquement terminé, ficelé, de création d'une maison comme celle-là à Santiago du Chili. Les terrains ont été visités, l'architecte a été choisi et on y va en délégation pour rencontrer les constructeurs et les bâtisseurs de ce centre Mendès France au Chili, qui sera installé au sein d'une université des travailleurs, dont les locaux sont en cours de réhabilitation. Donc vous voyez que cette maison est en train de faire des émules. Donc simplement vous dire combien j'étais heureux d'accueillir Jean-Luc Terradillos, notre chef d'orchestre depuis très longtemps de l'actualité. Claude Fouchier, un des fondateurs, il ne veut pas parler. Tu veux rien dire toujours, Claude ? Ah, ben voilà. Tu vois.
Je ne sais pas où sont Christian Brochet, que j'ai vu mercredi, hein, et Jean-Pierre Michel, que j'ai vu aussi mercredi.
Je ne sais pas où ils sont, je les ai appelés, on les attend, ils vont arriver, tu sais quelle heure il est là, ils vont arriver. Donc tu pourras prendre la parole,
oui, voilà.
tu seras leur interprète, leur avocat, et
j'attends.
Héros de leur histoire, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc... Pour vous dire, indépendamment de cette histoire de culture scientifique ici à Poitiers, dans notre développement régional ou national ou international, vous dire que l'actualité Poitou-Charentes a toujours tenu une place particulière dans nos démarches et que très souvent, quand moi je vais loin des bases de l'espace Mendès France, je retrouve la revue L'Actualité, en particulier en Amérique du Nord francophone. Je retrouve l'actualité sur l'étape de président d'université, de responsable de laboratoire, et chacun et à chaque fois disent quel est, enfin, leur étonnement sur la qualité de la revue, mais également sa longévité. Parce que je vous rappelle que on va en fait les 20 ans en même temps de cette revue, même si elle a beaucoup évolué, c'est cette longévité. Et je vous rappelle ce que nous disait Michel Clessens, qui est directeur adjoint du programme Sciences dans la Société à la Commission européenne, qui était là mercredi dernier. Michel Clessens redisait ce que disaient certains de ses prédécesseurs qui sont venus ici. Cette revue, elle est unique en Europe. Donc c'est pas un fait de communication de dire ça, c'est simplement dire que derrière le travail tenace de Jean-Luc et beaucoup d'entre vous d'ailleurs ici, des intervenants, il y a aussi une volonté de cette maison de malgré les remous et les difficultés que nous avons eues ces 10 dernières années au niveau de nos financements, au niveau aussi des tentatives d'intrusion de certains partenaires financiers dans les contenus, on a toujours tenu bon pour respecter l'indépendance de ton, la ligne éditoriale, le style, mais aussi la capacité à exprimer de manière complètement ouverte et libre l'ensemble des contenus. Donc moi, je suis garant de cette indépendance. Je me porte garant aussi, année après année, des moyens qu'il faut mettre en place pour que la revue puisse poursuivre son œuvre de diffusion. Donc vous dire que cette revue a une place extrêmement particulière et pas qu'une place de... J'ai l'habitude d'appeler Michel Brunet ma tête de gondole, pas qu'une place de vitrine, hein, et de loin. Voilà, donc il y a du contenu, il y a du sens, et la présence d'un membre du réseau scientifique d'Edgar Morin, ici à l'étage dans la maison aujourd'hui, est aussi un signe de l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Voilà, donc ce parcours, c'est un parcours d'invention, d'innovation. C'est aussi un parcours d'amitié pour moi avec Jean-Luc et avec Claude Fouchier, que j'avais rencontré avant même de devenir directeur de cette maison, puisqu'on s'était vu quand j'étais à l'époque directeur des affaires économiques de l'agglomération de Poitiers, où il était venu me voir pour essayer de tester comme ça auprès de quelqu'un d'extérieur au circuit à quoi pouvait servir une telle revue. C'est une discussion qui date de août 89. Donc vous voyez, c'est ma connivence avec la revue est ancienne, et j'en suis très heureux. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'être là. Claude, tu veux nous dire un petit mot avant que je passe la parole à Jean-Luc?
Non,
mais non. Si.
Oui, non. Non. Je suis un peu gêné, effectivement, de parler. En fait, cette revue, c'était Christian Brochet et Jean-Pierre Michel qui en avaient eu l'idée. Alors, donc un scientifique Jean-Pierre Michel, un économiste. Et donc, bon, ils avaient besoin un petit peu du savoir-faire, entre guillemets, d'un journaliste qui ne sait rien faire d'autre que... Et donc, tous les trois, on avait monté cette actualité qui aurait pu, effectivement, qu'on apportait un petit peu à bout de bras au début, tout à fait au début. Et c'est quand Didier Moreau est arrivé que l'actualité a pris un peu... on a su que l'actualité durerait plus que ce qu'on en avait espéré au départ, parce que on aurait dit au départ, dans 20 ans, on fêtera le 20e anniversaire de l'actualité en même temps que le 20e anniversaire d'Espace Mendès France, parce que c'est à peu près, hein, c'est à peu près ça. On aurait été un peu surpris. Alors, grâce ensuite à l'arrivée de Jean-Luc, qui va prendre la parole, parce que c'est lui qui l'a fait quasiment entièrement, l'actualité a effectivement, comme a dit Didier, a pris... c'est inscrit dans le paysage, et je dois dire que c'est la seule revue, lui dit unique en Europe, bon bravo, c'est bien, mais c'est la seule revue en France régionale, très peu, parce que moi je suis président d'un syndicat de publication régionale, et effectivement je ne vois nulle part ailleurs en France une revue trimestrielle de qualité de cet ordre-là. J'ajoute aussi ce qu'a dit Didier, c'est que les partenaires, quels qu'ils soient, alors Didier en premier lieu bien entendu, et ça Jean-Luc s'en expliquera aussi, mais je l'avais écrit pour le 10e anniversaire, ne touche pas, malgré effectivement quelques petites tentatives qu'il y a eu à un moment donné ou à un autre, n'ont pas l'intention et ne touche pas au contenu même de l'actualité. C'est-à-dire qu'il est sous la responsabilité éditoriale de Didier, qui en est le directeur de la publication, de moi un petit peu qui suis derrière, et de Jean-Luc qui a toute liberté pour faire son journal et qui le fait très bien. Voilà, en deux mots, ce qu'est l'actualité. Et alors, je vois quand même pas mal de... Parce que quand je vois, on vient de faire, comme ça passe par mon agence de presse, on vient de faire la déclaration annuelle des salaires. Et je ne sais pas combien, ma comptable s'arrache les cheveux, parce que je ne sais pas combien il y a de collaborateurs de l'actualité, mais ça représente un certain nombre. Hein. Ah ben, ça fait du monde. Hein. Et le trésorier en témoigne.
Je vous rassure, Jean-Luc. Je ne connais pas le nombre non plus, parce que c'est Lyon, mais nos tarifs n'ont pas été augmentés depuis très très longtemps. Et ça ne coûte pas cher, globalement. D'ailleurs, je peux vous dire que les numéros d'été qui font 130 pages... sont faits, auparavant c'était 100 pages, mais comme il y a beaucoup d'universitaires qui sont sollicités ou de doctorants qui sont sollicités pour rédiger, ils le font bénévolement et du coup ça nous permet de faire plus de pages. Voilà. Et tout le monde est content. Dans cette... Et puis donc il y a des musées qui nous prêtent aussi des images, etc. Donc alors, pour très rapidement, je vais vous brosser, pas ces 20 ans parce que j'étais pas là au début. Et alors, l'anecdote, pourquoi moi j'étais correspondant de plusieurs journaux à Poitiers, ancré à Poitiers, etc. Enfin, bon. Et la rencontre avec l'actualité, c'est d'abord la rencontre avec Claude Fouchier, qu'on se connaissait avant, on était même concurrents presque, il y a des années, et puis et Jean-Pierre Michel. Et donc, et un jour, ils me disent faut qu'on fasse un dossier sur l'architecture. Et bon, bah, ça serait bien si tu pouvais nous. Enfin, voilà, est-ce que tu as des idées? Parce que j'avais la réputation d'être un journaliste culturel, ce qui à l'époque était quand même un handicap, hein, faut le dire. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais bon, c'est du genre culturel, on mettait les très jeunes dans les journaux ou les très vieux, voilà, ceux qui peuvent. Enfin bon, ceux qui ont le temps d'aller au spectacle le soir, etc. Et bon, moi, j'étais passionné par la culture, évidemment, mais pas seulement, évidemment. Mais, enfin, bon. Et du coup, j'aurais dit, ben oui, c'est passionnant de faire un dossier sur l'architecture. C'est, pour moi, c'est pas très compliqué. Voilà. Et donc, ils m'ont dit, bah, vas-y, carte blanche. Et le dossier, visiblement, était très bien, ça a plu tout le monde. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire un sujet avec un scientifique? Pour moi, c'était un domaine totalement étranger. J'ai fait un peu de philosophie auparavant. Bon, la science, vous savez, même encore aujourd'hui en philo, la science, ça n'existe pas vraiment. Donc, pour moi, c'était un domaine vraiment complètement nouveau. Et j'ai trouvé ça amusant, mais vraiment. Quand on est journaliste, comme le disait Claude, bon, on est un peu, on sait rien sur rien, mais un peu tout sur tout, quoi. On se fait notre culture en avançant, quoi. Même si on a eu des diplômes, au bout d'un certain temps, ça compte plus du tout, parce que notre culture générale, on se la fait au fur et à mesure qu'on avance, qu'on rencontre des gens, qu'on prend notre. Évidemment, si on oublie tout ce qu'on fait d'un jour à l'autre, bon, c'est grave. Mais en général, on retient des choses. Et là, j'ai trouvé chez les scientifiques quelque chose de totalement exotique pour moi, totalement nouveau. Je m'intéressais déjà un peu au domaine artistique. Etc. Et là, quand on va dans des expos d'art contemporain, quand on lit des livres, moi, j'ai été nourri au nouveau roman, par exemple, ce qui peut paraître un peu bizarre, mais quand on est adolescent et qu'on lit Robe Grillée, on est face à quelque chose d'un peu inconnu, d'un peu bizarre. Bon. Et pour moi, c'était familier du côté artistique, mais du côté... scientifique, c'était radicalement nouveau parce qu'il n'y avait plus aucun repère. Et comme notre métier, c'est d'aller écouter des gens, d'essayer de comprendre ce qu'ils disent, évidemment de préparer un peu avant pour pas voilà, débarquer en disant racontez-moi, non, pour un peu travailler avant, évidemment. Donc ça demande d'acquérir une certaine méthode et puis d'avancer petit à petit. Et j'ai trouvé ça, encore une fois, amusant, passionnant. Et je me dis, en plus, c'est vraiment utile parce que. Bon, je faisais du quotidien en même temps. Le quotidien, ça va vite, etc. On parle un peu de tout. Mais là, on essaye de transmettre des choses fondamentales au public. Raconter ce que font les chercheurs. Et parfois, ce n'est pas du tout spectaculaire. Donc, c'est ça qu'il faut... c'est encore plus dur. C'est vrai que c'est facile de communiquer sur les origines de l'homme. Bon, d'accord. Ça intéresse a priori tout le monde. Mais il y a des domaines qui sont vraiment très durs. Et petit à petit, on s'est fait comme ça... en marchant. La deuxième chose importante, c'est la confiance totale avec Didier Moreau. On se connaissait avant, on est sur la même longueur d'onde. Et ça a permis d'avancer considérablement. C'est vrai ?
Yes.
Alors, l'avantage de Didier, c'est que lui aussi, il n'est pas du domaine de la culture. Ça, c'est peut-être le secret de la réussite. Quand on est vraiment issu d'un milieu, on est formaté par son milieu. Vous savez sans doute pour beaucoup que Didier Moreau, il vient plutôt de l'aménagement, enfin sa spécialité, c'est les finances. Donc, ça n'a rien à voir avec l'étude scientifique. Et justement, c'est ce point de vue extérieur qui permet peut-être de mieux comprendre ce qui se fait. Et moi, n'étant pas de scientifique, je crois que c'est ça, en fait, le truc. Et d'ailleurs, on a souvent discuté de ça. On est à l'extérieur, en même temps, on travaille dedans et on se dit, ah, comment faire mieux, comment... Et puis, surtout, toutes les gloires locales de la science, et ça n'a aucun impact pour nous parce que on n'a pas de Panthéon. Donc, en fait, on est avec des individus et on travaille avec eux. Et on voit tout de suite les gens qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à faire, à raconter avec nous. Et puis ceux pour lesquels, bon, on va laisser passer gentiment. Parce que ça repose sur rien, pas grand-chose. Et donc, voilà, on a avancé comme ça. Et puis, Jean-Pierre Michel nous disait souvent, on en rigolait avec Claude, on va faire le magazine de l'excellence régionale. l'excellence régionale. Donc c'est vrai, même dans une petite région comme la nôtre, il y a quantité de foyers d'excellence, mais à tous les niveaux, et pas seulement dans le domaine des sciences. Et je dis, c'est vraiment une très bonne idée, parce que c'est vrai que dans la presse, en général, on parle de ce qui ne marche pas, de ce qui avance pas, de ce qui va mal, et ce qui est positif, ça passe souvent, c'est très rapide, ou alors c'est pendant l'été, quand on a le temps, qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité, là, on parle de sujets très positivement. Et mon idée, c'était, effectivement, on va parler de l'excellence régionale, mais en décloisonnant les genres, et puis surtout, on va essayer de pratiquer l'excellence régionale. C'est-à-dire de faire de cette revue, non pas une petite revue faite pour ingénieurs, éditée par un centre de culture scientifique, mais essayer de faire une belle revue. Parce que si on veut toucher des gens, il faut faire quelque chose de beau. Il faut déjà qu'on ait envie de feuilleter, quoi. C'est le béaba, évidemment. Alors l'astuce après, c'est avec des petits moyens, comment on peut essayer de faire quelque chose de beau. Et là, il faut avancer. Alors, beaucoup d'amitié. Donc, je remercie tout de suite Marc Deneyer, photographe. Et c'est le premier grand photographe, on peut dire, premier excellent photographe, qui a accepté de faire des photos pour nous. Bon, je ne vous dis pas un tarif défiant toute concurrence, évidemment. Et, parce que je lui disais, Marc, oui, ça serait bien d'avoir de temps en temps quand même de belles images. Un jour, on aura des belles images partout, toutes les pages, mais là, essayer de montrer, d'avancer comme ça. Il m'a dit oui, je crois que c'est la maison de Pierre Loti qu'on est allé photographier en premier. Et puis, du côté des auteurs, donc, on a toujours travaillé avec des journalistes et beaucoup de jeunes journalistes, parce que le travail de pigiste, c'est difficile, donc à un moment, on arrive à se caser, et puis voilà, on rentre dans une certaine routine, disons. Et puis, donc, il y a des auteurs qui ont dit, OK, alors, Kéla Villéger est un des premiers. Alain Kéla Villéger, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente, c'est le spécialiste de Pierre Loti, mais pas seulement, hein, mais de la littérature exotique, etc. Je connaissais, je sais plus comment, enfin, je me souviens plus comment on s'est rencontrés la première fois, mais peu importe. Et je me disais quand même, ça serait bien si on parle de Pierre Loti. La maison de Pierre Loti, c'était pour un numéro d'été, donc un peu axé sur la culture, le tourisme, etc. Je me disais quand même, on a des photos de Marc Deneyer qui sont absolument magnifiques. Il faut une plume, nous on peut le faire évidemment, mais il faut une plume la meilleure possible. Voilà. Donc, la meilleure, c'est Kéla Villéger. Donc, je lui ai demandé. Il a dit, OK, on a fait le premier. Je sais que ça énerve un peu Claude Fouché, parce qu'il pense qu'on fait trop sur Pierre Loti. Dans le dernier, il y a encore Pierre Loti. Mais, alors, ça, c'est... Moi, je suis persuadé que Pierre Loti est quelqu'un de très important, alors que, quand on était très jeune, c'était l'auteur des dictées de nos grands-mères, enfin c'est poussiéreux, ringard. Et alors, c'est pour montrer comment on avance. On cherche l'excellence, mais il faut aussi l'inventer. Il y a des choses qui sont évidentes aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a un certain nombre d'années. Il faut imaginer que quand Kéla Villéger commence à s'intéresser à Pierre Loti, c'est considéré comme quelque chose de totalement désuet. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Grâce à son travail de recherche et à quelques autres, notamment Bruno Versier, on découvre de nouveaux textes de Pierre Loti qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas bien diffusés. On découvre qu'il fait de la photographie, on diffuse qu'il adore se travestir, que c'est une sorte de performeur qui explique sa maison. Pourquoi, quand on visite la maison de Pierre Loti aujourd'hui et qu'on sait tout ce qu'on sait sur Pierre Loti, on voit que ça marche ensemble. Voilà. Il n'y a pas de hiatus entre Pêcheurs d'Islande et la maison de Pierre Loti à Anchois. Donc tout ceci pour dire qu'il y a un travail qui se fait petit à petit et qui un jour devient évident. Aujourd'hui, c'est vrai, on connaît, tout le monde connaît Pierre Loti, on connaît le côté un peu fantasque de Loti. C'est une évidence, mais il y a 20 ans, ça ne l'était pas. Excusez-moi, j'ai un petit peu d'eau. Et puis, après, il y a d'autres écrivains qui sont arrivés, et notamment Denis Montebello, je l'excuse, il est prof, il gagne sa vie en étant prof dans un lycée de La Rochelle, et sa journée est très très chargée aujourd'hui, c'est la journée la plus chargée de sa semaine, donc il aurait été là. Parce que là encore, c'est une belle histoire. Je vous dis, on invente l'excellence, et aparté, mais qui est même en plein dedans, quand on est dans le domaine scientifique, on est forcément dans le domaine de l'excellence. Parce que la science se fait à niveau national ou international. Bon, ça ne se fait pas à un niveau local. Même si on étudie un objet qui est très, très local, on est forcément à un niveau au moins national. Bon. Quand on est dans le domaine culturel, c'est différent parce que c'est la subjectivité, c'est l'opinion qui fait un peu. Il y a des hommes de science qui peuvent dire que mais, l'opinion. Et alors là, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pour ça que on est tous un peu ignares. La plupart des scientifiques sont absolument ignares en art, en littérature, ne lisent pas de livres. Et inversement, la plupart des écrivains ne lisent pas, ne savent pas ce que c'est que la science. Et alors le risque eût été de faire quelque chose top niveau en science, et puis dans tout ce qui fait le reste de la vie en Poitou-Charentes, toute cette vie culturelle, d'avoir de pas avoir une échelle de valeur qui nous permette de tenir la rampe. Et on aurait très bien pu tomber dans le cantonal, enfin dans les artistes de sous-préfecture. Et là, c'est plus dur, ça. Et des fois, c'est difficile. Et on a eu des discussions parfois avec Claude qui n'étaient pas évidentes. Parce que quand on a une certaine exigence, on est forcément face à un scientifique. On dit, oui, ben d'accord, je ne comprends pas trop ce qu'il dit, mais ce n'est pas grave. C'est un très bon scientifique. Face à un artiste, on peut dire, c'est un nul. Voilà. C'est un ringard. Et, parce qu'on n'a pas les outils. Voilà. Et on peut se tromper. Moi, je peux me tromper, évidemment, bien sûr. Je suis sûr que je me trompe. Mais j'en ai conscience. Mais en même temps, cette attention permet de voir quelque chose au même niveau. Et au bout d'un certain temps, ça pose plus du tout de problème. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. C'est ce qui fait un peu le charme de la revue. C'est toujours cet effet de surprise. Par exemple, il y a 2 ans, on avait publié un extrait de conférence d'Edgar Morin ici. Et puis sur l'ouverture, il n'y avait pas sa photo, mais il y avait une photo de Jean-Luc Moulin où on voit des sandales, je ne sais pas si vous vous souvenez, des sandales en plastique transparentes, il appelait ça une méduse. Bon. Et il nous parlait de la complexité, on montrait une espèce de chose bizarre on reconnaît les sandales, évidemment, on connaît la transparence sur un fond bleu, etc. Mais ça peut être en même temps, effectivement, comme une méduse vue de loin. Etc. Bon, c'est totalement décalé, mais ça marche. Et puis personne ne m'a dit, qu'est-ce que ça vient faire, ce truc-là? Et je suis sûr qu'Edgar Morin est très content de ça, parce que ça augmente quelque chose. On va un peu plus loin. Et puis, alors bon, il faut dire un mot sur Edgar Morin, parce qu'il a été très important pour nous. L'espace Mendès France a inventé une forme de culture scientifique. On peut le dire modestement, hein, c'est vrai. Tout était inventé il y a plus de 20 ans. Et puis, faire monter une machine comme celle-là, avec autant d'activités, c'est vraiment pas évident, donc il faut avoir des idées. Des idées claires et savoir où on va. L'atout de Didier Moreau, c'est qu'il sait ce que c'est que les collectivités, c'est ce que c'est qu'un territoire, c'est sa passion. Et donc voilà, c'est une façon d'ancrer intelligemment dans un territoire. Et Edgar Morin nous a été a été une inspiration pour nous parce qu'en fait, il a réussi à dire des choses qu'on savait depuis les années 70 dans le milieu, mais il a réussi à mettre des mots sur ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on faisait, c'est-à-dire décloisonner. Ne pas se contenter de la science, de la diffusion scientifique comme la bonne parole qu'on va donner aux masses, aux ignares, etc. Mais la science peut se discuter elle-même. Alors, ce n'est pas facile à faire passer parce que même maintenant, c'est rodé, mais il y a encore des sujets difficiles. Les journées sur les OGM, par exemple, oh là, c'était compliqué à monter. Quoi. Parce qu'il y a dans les sujets scientifiques, surtout quand c'est la technoscience qui est en jeu, il y a des blocages. Quoi. C'est comme le nucléaire, ça reste toujours une ligne de fracture très dure. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rentrer là-dedans et de faire quelque chose d'intelligent qui soit utile aux autres, qui permette d'avancer, qui permette de dédramatiser un peu, de déminer le débat. On n'y arrive pas forcément à tous les coups, mais d'avancer. Et alors, bon, on pratique du Edgar Morin. C'est-à-dire qu'il nous dit, évidemment, il faut se spécialiser aujourd'hui, mais il faut garder le souci de la culture, parce que la culture générale, pour ne pas se perdre, sinon on est comme... on va devenir comme des Formule 1 sur un terrain de campagne. On va tomber en rade et on n'avancera pas. Et du coup, c'est pour ça que cette revue est un objet un peu bizarre, parce que ça ressemble à rien de connu, c'est vrai. Mais en même temps, c'est l'expression de la région.
Pendant que Jean-Luc va boire son verre d'eau, il faut reconnaître que l'objet est bizarre et ça se traduit par quelque chose qui est hyper concret, hyper prosaïque. C'est que nos diffuseurs régionaux, que sont les maisons de la presse ou autres, ils ne savent jamais où nous mettre. Est-ce qu'on nous met en science? Est-ce qu'on nous met en territoire? Est-ce qu'on nous met en culture? Bref, voilà.
Le réseau H, c'est nous placer.
À trouver, oui. Ouais. Mais leurs petits collègues, pas trop. Voilà, donc l'objet est
et bizarre. Alors, le grand jeu aussi de l'actualité. Donc, alors, c'est à chaque fois... donc ça serait simple, en fait, de dire, bon, on va faire systématiquement, on va découper 3 pages pour ceci, 3 pages pour cela, 10 pages pour ça, etc. Bon c'est trop facile, en fait. Et c'est vrai qu'il faut des repères. Alors, il y a quand même des repères dans la structure. Il y a des rubriques, etc. Bon. Mais, en fait, ce qu'il faut, c'est, pour nous, c'est de suivre un peu l'activité de l'Espace Mendès France, de suivre l'activité de la recherche en Poitou-Charentes, donc c'est-à-dire l'Université de Poitiers, l'Université de La Rochelle, le laboratoire de Chizé, etc. Les archéologues, les préhistoriens qui sont rattachés à d'autres labos ailleurs, etc. Mais aussi, c'est traiter des thèmes. Et quand on traite un thème un peu général, on essaye d'à la fois s'adresser à celui qui ne sait rien, entre guillemets, donc on essaye d'être le plus large possible, et puis en même temps, ne pas décevoir celui qui est informé. Ça, c'est vraiment le plus dur. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui écrivent, puis la troisième chose aussi, c'est qu'on prend le temps. Aujourd'hui, tout se fait en 3 feuillets. Bon, et encore, 3 feuillets, des fois, c'est long. Hein, c'est, dans le journal, 2 feuillets. Alors, ça, évidemment, on va à l'essentiel, c'est bien. Mais il y a des sujets sur lesquels bon, on peut se permettre de prendre un peu plus de temps. Parce que faut un développement. Et puis, comme on a le temps, on peut faire des feuilletons. Alors, je parlais de Pierre Loti tout à l'heure. Mais il y a des auteurs avec lesquels on fait un feuilleton. Donc, je salue Pierre Beck, par exemple. Mais c'est un de ceux qui nous a ouvert ses portes le plus tôt. Et avec Pierre Beck, on a fait je ne sais pas combien d'interviews sur Guillaume, sur la lyrique amoureuse des troubadours, sur les femmes troubadours, sur etc. Et ça, c'est un petit cheminement qui est passionnant parce qu'on garde le lien. Et ça ne correspond pas forcément à une actualité. Bon, il a beaucoup publié, mais ça ne correspond pas forcément à la sortie d'un livre. On est en dehors de toutes ces considérations. Mais ça rentre à chaque fois dans un dossier. Ça donne l'éclairage, un éclairage alors très ancré localement, évidemment, parce que c'est Guillaume le troubadour, le premier, Guillaume IX, Poitevin. Mais pas seulement, bon, ça dépasse ces catégories-là. Et puis, où en étais-je? Je vous ai perdu, là. Et je me suis perdu aussi.
Ça fait une petite digression en disant que souvent, tu conseillais à ceux qui écrivent.
Voilà. Le plus dur, c'est d'essayer de raconter quelque chose de complexe avec le plus simplement possible. Mais, alors, bon, il y a des écrivains... Moi, je dis souvent, il faut lire Simenon. Lisez Simenon, parce qu'il a un vocabulaire assez pauvre. Et pourtant, quand on lit un de ses bouquins, on en sort déprimé. Parce qu'il est... les sujets sont c'est des gens que vous connaissez Simenon, mais c'est terrible. Pourtant, avec presque rien, il arrive à nous faire passer des trucs horribles. Et ben ça c'est un bon, c'est le grand art. Et mais quand même, quand on parle notamment avec des scientifiques, il y a des moments où il faut quand même dire des mots un peu compliqués, etc., et qui sont dans le dictionnaire, d'accord, mais qu'on ne connaît pas le dictionnaire par cœur. Et donc on peut s'autoriser un ou deux paragraphes dans un papier assez long, un peu plus complexe. Voilà. De toute façon, tout le monde fait un peu des lectures accélérées. Donc, parce que quand même, il ne faut pas, celui qui est informé, il faut qu'il retrouve quelque chose. Et je suis très heureux, par exemple, quand dans certains numéros, il y a des spécialistes qui me disent, alors on traite d'un sujet, on prend le temps, le nombre de pages qu'il faut, et puis des spécialistes qui me disent, ah, j'ai découvert ça, je ne savais pas ça, etc. Ça, c'est vraiment super. Et parce que, évidemment, alors, le grand public, entre guillemets, qui n'existe pas, mais qu'on appelle comme ça parce qu'on ne sait pas comment dire, le grand public est toujours enchanté. Quoi. Moi, je suis émerveillé d'entendre les lecteurs qui nous disent « Ah !» Alors, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens à la retraite qui nous lisent parce qu'ils ont le temps, ils ont envie d'apprendre, etc. Mais chez les étudiants aussi, il y en a plein qui lisent. Et c'est toujours plaisant de dire « Bon, on avance dans cette voie qui est difficile. » Parce que c'est pas... On ne fait pas de démagogie, hein, c'est vraiment impitoyable. Il faut passer la rampe. Il y a des sujets qui n'en valent pas le coup, ben on n'en parle pas. Voilà. Une image qui est mauvaise, on n'en parle pas. Une expo qui n'a aucun intérêt, on n'en parle pas. Mais on n'est pas méchant, on ne va pas descendre. Hein. Mais donc, il faut garder cette exigence sans cesse et en même temps, essayer de toucher le plus grand nombre. Et bon, ça marche quand même un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu plus... des dossiers un peu plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, sur un numéro, il y a toujours, on trouve toujours quelque chose à lire. Et ce qui met, alors, il y a toujours des présences, bon, d'écrivains, évidemment, parce que c'est nous, on communique avec la langue, évidemment. Et alors, ceux qui savent le mieux faire ça, ce sont les écrivains. C'est leur métier. Donc, c'est bien d'offrir une page. Alors, il y a toujours au moins deux pages dans chaque numéro, mais une page écrite par quelqu'un. Alors, c'est sur un thème. Ça vient en complément dans un dossier, par exemple. Mais d'avoir... Alors, on ne cherche pas la belle langue, hein, c'est pas ça. Mais d'avoir quelque chose d'écrit, d'écrit quelqu'un par quelqu'un qui n'est pas journaliste. Et c'est des rubriques qui sont très lues, d'ailleurs. Là, je peux citer En compagnonnage, j'ai cité Denis Montebello, bien sûr, Pierre de Vidio, qui a la rubrique Route. Il y a eu Raymond Bosier, qui a beaucoup écrit pour nous. Il y a Alberto Manguel, François Bon, voilà, qui sont régulièrement... Voilà. Et parce que c'est important, la langue. On a l'impression que ça nous est donné, mais en fait, on voit bien, je veux pas jouer les vieux ringards, mais il y a plein de choses qui se perdent. Donc, d'avoir quelqu'un qui nous écrit quelque chose, c'est un cadeau qu'on fait. Parce que tout est possible. Il y a 10 ans, les sciences humaines étaient très peu présentes à l'espace Mendès France, même dans la conception de la recherche en Poitou-Charentes. Aujourd'hui, c'est important. Tout le monde a conscience que les sciences humaines représentent quelque chose de très, très important. Bon. Donc, nous, on pratique depuis très longtemps ce genre de choses. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont pleines. Et puis, donc, on a ouvert des espaces. Et c'est ouvert. Et donc, ce qu'il faut, c'est tenter de les garder ouverts et d'avoir toujours quelque chose de conséquent à mettre à l'intérieur. Bon, je vais peut-être terminer ici. Je vais vous présenter, pour les 20 ans, on a quand même un beau cadeau. Il y a ce site d'archives. Et donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est très facile. Parce que, c'est pas une mission de service public qu'on a, mais c'est presque une mission de service public. Alors, ce qui est rigolo, c'est en lisant des années après les articles, on peut voir que parfois, ils n'ont pas du tout vieilli. Quoi. C'est ça qui est... Alors... Mais ça, il faut un peu d'imagination, en fait. Ça, j'ai beaucoup appris aussi. On a beaucoup appris avec Michel Brunet. Michel Brunet nous dit, tu l'as cité encore l'autre jour, quand on est scientifique, il faut de la rigueur, c'est évident, des connaissances. Bon, nous, on dirait des compétences. Et puis, il faut aussi beaucoup de ténacité, parce qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et puis, même si on voit qu'on n'est pas forcément soutenu, faut pas avoir peur, on fonce, on a notre sillon et au bout d'un certain temps. Et puis, beaucoup d'imagination. Parce que l'imagination, ça permet d'inventer, de contourner, de trouver la stratégie pour contourner, et puis d'avancer, voilà. Et puis, la récompense, c'est quand on voit que ça avance. Alors, bon, je vous abandonne comme ça, parce que c'est trop. Techniquement, on peut mettre en ligne que les pages depuis 10 ans, parce que la technologie permet de faire seulement depuis 10 ans des vraies pages en PDF. Avant, c'était, on ne voyait même pas les images dans l'écran. Hein. On faisait tout en noir et blanc. Donc c'est un peu un facteur limitant, mais ce n'est pas grave. Malgré tout, en mettant les archives depuis 10 ans, ça fait au moins 3000 pages. Hein. C'est pas mal. Donc, vous voyez, archives ici. Donc là, il y a quelques numéros anciens, octobre 91, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques numéros pour lesquels on a scanné les pages, parce que c'était des moments importants. Donc là, sur les tours de la Manu, c'est donc le plus ancien. C'est la création de Jean-Luc Villemout, commandé par Edith Cresson, pour les tours de la Manu. Ça a été très à la mode pendant un temps, art science, voilà. Donc c'était pour montrer que bon, on peut faire de l'art science sans que ça soit étiqueté art science. On fait du art science dans un site industriel. Et puis, donc par exemple, vous avez toute l'histoire de Michel Brunet. Si vous recherchez, alors là on va faire, on peut chercher comme ça, Michel. Là, rechercher. Donc en premier, ce qui apparaît, ce sont les articles les plus récents. Voilà. Et puis, précédent. Et comme ça, on recule, on recule, on recule. Et donc, vous voyez, notre histoire est panafricaine. Là, il n'a pas encore découvert Abel. Roger Gilles. Alors là, Roger Gilles, c'est parce que c'est dans un dossier. Donc, comme le PDF permet au texte entier d'être opéré. Auparavant, Le PDF est une image. Donc, il fallait faire un petit texte comme il y a là pour que ça soit repéré par Google et etc. Et maintenant, le PDF permet d'avoir une sélection dans le texte en entier. C'est plus une image. Et ça, c'est génial. Donc, ça fait, par exemple, on voit Roger Gilles qui apparaît là. Donc, il n'a rien à voir ici avec Michel Brunet, mais c'est parce qu'il doit y avoir Brunet, un Brunet de cité, quelque chose comme ça. Et puis, donc, on retrouve, donc, il découvre Abel. Lucie, Science des origines, voilà, ça, le premier, donc ça c'est une page scannée. Ah, j'ai fait une... Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, non, c'est pas là. Voilà, donc il y a deux solutions. Vous voyez, vous avez texte brut, ouvrir, bon, ça c'est un peu difficile. Donc les deux pages qui apparaissent, et vous pouvez aussi les télécharger, format PDF. Donc là, on peut faire ça aussi, tac, voilà, tac. Voilà. Donc évidemment, alors, comme on a un chouchou qui s'appelle Pierre Loti, on a tous les articles sur Pierre Loti.
T'es content.
Et puis, donc là, alors on va se retourner à l'accueil. À droite, donc c'est tous ceux qui ont apporté quelque chose à l'actualité depuis 10 ans. Donc, alors par exemple, ça... Piggy Adam est une dessinatrice de bande dessinée qui vivait à Angoulême. Elle est partie depuis quelques temps. Et donc, je lui ai commandé plusieurs fois. On a fait son portrait, évidemment. Et elle a fait des illustrations. Là, par exemple, vous voyez, ça, c'est une commande pour un article de François Bon sur Villon. Donc, là, on peut voir sur certains... L'interface peut changer d'un ordinateur à l'autre. Là, normalement, le petit carré que vous voyez là, sur certains ordinateurs, il apparaît automatiquement. C'est-à-dire qu'on voit le nombre de pages immédiatement. Et puis après, voilà. Ça, c'est Piggy Adam. Et puis, donc, vous pouvez télécharger, vous pouvez imprimer, vous faites ce que vous voulez. Il y a tous ceux qui ont écrit. Et puis, tous ceux qui ont fait des photos, qui ont... et puis, parfois, alors, dans certains cas... Il y a ceux qui ont été interviewés et qui ont écrit quelque chose ensuite, ou inversement. Voilà. Donc dans certains cas, c'est moins rigoureux. Donc là, j'étais avec Stéphane Picalo. Il y a de longues histoires qui se créent comme ça, parce que Stéphane Picalo, on l'a connu comme doctorant à l'université de Poitiers, un jeune garçon très prometteur qui faisait sa thèse sur Claude Simon. Et d'ailleurs, j'avais demandé un article sur Claude Simon. Et aujourd'hui, il est maître de conférence. Après être passé par Amiens, etc., il est revenu à Poitiers. Il est maître de conférence en littérature et linguistique à Poitiers. Et il est très dynamique, donc on va continuer à faire des choses avec lui. Voilà. Donc c'est une ressource, c'est rigolo, parce que Claude Fouchier, au tout début, disait on va faire de l'actualité une sorte d'anthologie régionale. Alors bon, ça nous faisait un peu rire, parce qu'on se disait... Mais en fait, avec la technologie aidant, on y arrive de façon imprévue.
Oui, il faut bien dire qu'aujourd'hui, grâce à cet outil informatique, tout le monde a à disposition une véritable encyclopédie de la région qui n'existe nulle part ailleurs. Puisqu'on peut taper un nom, un mot, et on se rend compte tout de suite sur... Et là, c'est une véritable encyclopédie, et il n'y en a pas d'autres. Et dans aucune autre région, il y en a d'ailleurs.
Tenez, alors, coup de chapeau à Pierre Beck. Donc, Pierre, le premier article, sans doute, Les origines du français, numéro spécial francophonie en 97. Donc, alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je me souviens très bien du moment. Voilà, tout est là, avec une superbe photo de Claude Poquet dans votre jardin. Donc ça faisait 3 pages, 4 pages presque, et qui était suivi par Claude Agès et Reclus. Et donc voilà, celui-ci, on l'a scanné spécialement, c'est 97, pour que ça soit présent. Il y a tout Pierre Beck de l'actualité dans le site. Et puis le suivant, on va regarder. Guillaume, voilà, évidemment, c'est le premier grand sur Guillaume. Vertige de l'amour, bon, un petit clin d'œil à un chanteur que vous connaissez. Et pourquoi Vertige de l'amour? Je me souviens plus si c'est dans l'entretien, mais vous avez dit, mais aujourd'hui, ça correspondrait à quoi, la lyrique des troubadours? Vous m'aviez dit, très amusé, oh, bah, vous savez, c'est un peu comme les chanteurs de charme, hein, c'est un peu l'équivalent des chanteurs de charme d'aujourd'hui. Voilà, c'est toujours l'histoire d'amour avec la belle, etc. Ça n'a pas changé. Bon, la langue n'est pas la même, évidemment, la complexité non plus. Alors là, bon, de temps en temps, il y a des petits trucs qui ne fonctionnent pas, donc bon, faut pas. C'est pas, voilà. Ça, bon, on va le noter, c'est pas normal.
Thierry, hein, t'as compris. Hein.
Voilà, ça, par exemple, vous avez le premier entretien avec François Bon. François Bon, ascendant Rabelais. C'est un très bon titre, on en est très content. Et ça pourrait... ça lui fait pas. Ah, là, il y a un problème. Thierry. Un problème. François Bon, ascendant Rabelais, ça pourrait faire un titre de livre, ça. Ouais. Mais si un jour, on fait une compilation des textes de François Bon, parce qu'il y en a beaucoup pour l'actualité, on pourrait peut-être donner ça. Bon, vous avez... Donnez-moi un mot, là.
Paysage.
Oh là là, paysage, j'ai un numéro spécial, ça va être monstrueux. Alors, j'ai fait une faute. Bon, c'est pas encore parfait, il y a plein de choses à régler, comme vous voyez. Ah, vous voyez, c'est très varié. Donc, ça commence par le début. Donc, ça, c'est pareil, on a un compagnonnage assez long avec Gilles Clément. D'ailleurs, à l'étage, dans la grande télé qui diffuse, il y a des extraits d'un entretien qu'on avait fait il y a des années. Donc, ça, c'était hommage aux orties, hommage au jardin d'orties à Mel, d'il y a 2 ans, c'est ça. Et puis, si on monte... oui, vous voyez, c'est, il y en a beaucoup. Mais c'est normal, il y avait un numéro sur le paysage. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Et là, on retrouve toutes sortes... Donc, comme c'est une recherche par mots... mobilisation éco-citoyenne, donc ça rentre là-dedans, alors que bon, pas forcément. Ou même le Hervé Baudouin, c'est un architecte, mais justement il nous parle du paysage, l'intégration de la modernité dans le paysage. Le Corbusier même là, vous voyez. Donc on peut passer des soirées entières à regarder, et c'est très amusant. Et en même temps, on apprend énormément de choses parce que justement il y a des connexions sans cesse qui se font. Alice Maher, par exemple, là, c'est une artiste irlandaise. Qu'on aime beaucoup. Bon, elle apparaît ici, mais en fait, elle devrait apparaître dans d'autres lieux. Elle devrait apparaître au moins dans 3 ans. Là, voilà, ça, c'est le genre de rencontre au sommet, si j'ose dire, est totalement imprévisible. C'était dans le numéro sur le Moyen-Âge, numéro qui est épuisé. Et on avait interviewé Vincent Zini, Jean-Jacques Vincent Zini, qui allait pas... faire paraître une nouvelle édition de textes sur Mélusine. Et voilà, donc ça, c'est très sérieux. Et puis, c'était à l'époque où se préparait la Biennale de Mel, etc. Et j'avais vu les images, la série d'images d'Alice Maher. Et en fait, ce que dit Vincent Zini, il dit au Moyen-Âge, il y a des êtres qui ont plusieurs natures. C'est-à-dire que la fée n'est pas forcément identifiée comme fée immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a un pacte entre l'humain et la fée, et il y a un secret, enfin, etc. Mais la fée est quelqu'un qui possède plusieurs natures, c'est-à-dire qu'elle est humaine, mais elle est d'un autre monde, elle est d'au-delà. Et ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Alors, on connaît Mélusine, c'est-à-dire que le samedi matin, elle se transforme en serpente, enfin, etc. Il ne faut pas qu'on la voie, il faut que ça reste absolument secret, etc. Et en voyant cette image d'Alice Maher qui se met en scène, donc elle a de la mousse sur la poitrine, et elle nous montre, bon, elle est rouge déjà, donc ça, c'est, le rouge c'est quand même très fort. Et donc elle ouvre sa robe comme ça, et nous montre quelque chose d'étrange, ça peut être comme une maladie, et c'est une autre nature, parce que c'est du végétal sur de l'humain. Voilà. Et donc je crois que ça illustrerait parfaitement... Le propos de Vincent Zini sans être dans l'illustration pure et simple. Voilà, et c'est voilà le genre de choses auxquelles Didier, tu veux pas chercher quelque chose?
Je sais pas, est-ce que tu as des choses sur Robert Halleux?
Non, pas encore.
Robert, on n'a rien sur toi.
Si, il y a un dessin. Alors, pour révéler un secret, on a un dessin de Glenn Baxter. Je vous ai pas parlé de Glenn Baxter. Mais là, ça fait partie des longues histoires aussi. Le safari historico-gastronomique. On va chercher Poirillon, tiens. Et est-ce que ça rentre là-dedans? Ouais, voilà, la compote de Poirillon. Avec Glenn Baxter, donc, qui est un dessinateur qui vit à Londres, qui aime beaucoup notre région. Et donc on a créé avec lui le safari historico-gastronomique. Et donc à chaque fois, on prend, c'est en écho avec Denis Montebello et Marc Deneuillère, on prend une saveur très locale. On a épuisé toutes les choses très connues, comme le tourteau fromage et ça. Donc il y avait la fête du poirillon, je ne connaissais pas, c'est une toute petite poire un peu acide. Et à Saint-Sauvent, ils font une fête tous les ans. À la fin de l'année, il y avait des bagarres de poirillons. Enfin, bon, ils font des compotes de poirillons. Et donc, Glenn nous envoie son petit crobar, comme ça, en noir et blanc, avec le texte en anglais. On essaye de le traduire, de le transposer en français. Et on s'amuse beaucoup avec les noms et les prénoms. Et alors, j'ai pas osé, j'avoue. Parce que, alors, Robert Halleux s'est installé adopter notre région et s'installer à Saint-Sauvent. Et donc Monsieur Robert Houillette, j'ai pas osé mettre Robert à l'eux, mais Houillette, c'est le bon, c'est un vieux mot, mais c'est la projection, c'est le petit truc qui ils font des batailles à l'Houillette d'ailleurs de Paris. Voilà. Alors moi, ça c'est pour la petite histoire, hein. Y a des petits clins d'œil comme ça qui sont de temps en temps. Et donc voilà, donc Robert est déjà là, mais il sera prochainement dans un numéro, on a le temps, hein, dans un numéro d'actualité, à l'occasion d'un dossier, par exemple. Voilà, bon, on peut peut-être arrêter là. Pour vous dire après que, donc, évidemment, comme je vous disais, on n'innove pas dans un désert, hein, évidemment, et nous, on essaye de montrer la diversité, la complexité, sans en avoir peur de la région Poitou-Charentes, sachant qu'on n'est pas coupé du monde, évidemment, et il y a plein de choses qui comptent dans la vie, et notamment... manger, découvrir des choses, des saveurs et boire un coup, c'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça qu'après, on va boire un coup et grignoter des choses que vous ne connaissez pas. Voilà.
Merci Jean-Luc, on peut l'applaudir parce que... Il ne vous aura pas échappé que la plume de Jean-Luc est exigeante et fluide et qu'il a un talent de conteur. Je pense qu'on va l'embaucher comme animateur à l'Espace Mendès France. Il a un petit peu de temps à côté de son... En tout cas, Jean-Luc est un garçon modeste, vous le savez, mais moi, je voulais dire à quel point j'appréciais, j'avais et puis j'apprécierais le travail qu'on fait en commun et que je crois qu'il est, à travers sa démarche aussi une source d'inspiration pour les méthodes qu'on met en place ici. Et je voulais encore une fois devant vous le remercier et saluer son travail et le travail de tout le réseau que vous constituez d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre vous sont là. Et Jean-Luc a sa corde, son talent de pédagogue et de formateur. Parce qu'il n'a pas rappelé, mais il le fait à chaque fois, que nombre de jeunes universitaires, futurs chercheurs, directeurs de labo, responsables d'institutions, passent sous les fourches codines de son avis. Et moult articles sont écrits depuis de nombreuses années avec doctorants, étudiants en master maintenant, etc. Donc certaines sont là. Et c'est une école extraordinaire, je pense, et c'est un formateur et pédagogue extrêmement rigoureux et plein d'humanité. Donc Jean-Luc, merci pour tout ça. Je crois qu'on va pouvoir se retrouver autour des gastronomies, un peu de gastronomie locale, c'est ça ? On vous a installé ça dans le hall, donc merci à tous pour votre amitié et votre présence pour ces 20 ans de l'actualité de l'Espace Mendès France.